C'est mon avis, cher Agathon, que tu as bien débuté en disant qu'il fallait montrer d'abord ce qu'est Eros, puis ce qu'il est capable de faire. J'aime fort ce début. Voyons donc, après tout ce que tu as dit de beau et de magnifique sur la nature d'Eros, que je te pose une question sur ce point. Est-il dans la nature de l'amour qu'il soit l'amour de quelque chose ou de rien? Je ne demande pas s'il est l'amour d'une mère ou d'un père. Il serait ridicule de demander si l'amour est l'amour qu'on a pour une mère ou un père. Mais si, par exemple, je demandais si un père, en tant que père, est le père de quelqu'un ou non, tu me dirais sans doute, si tu voulais répondre comme il faut, qu'un père est père d'un fils ou d'une fille, n'est-ce pas? Oui, répondit Agathon. Ne dirais-tu pas la même chose d'une mère? Agathon en convint aussi. Laisse-moi donc, ajouta Socrate, te poser encore quelques questions afin de te rendre ma pensée plus sensible. Si je demandais, voyons, un frère, en tant que frère, est-il ou n'est-il pas frère de quelqu'un? Il est frère de quelqu'un, d'un frère ou d'une sœur? Sans doute, avoua-t-il. Et c'est donc aussi, reprit Socrate, à propos de l'amour, de nous dire s'il est l'amour de quelque chose ou de rien. Il est certainement l'amour de quelque chose. Garde donc dans ta mémoire, dit Socrate, de quoi il est amour, et réponds seulement à ceci. L'amour désire-t-il ou non l'objet dont il est amour? Il le désire, répondit-il. Mais, reprit Socrate, quand il désire et aime, a-t-il ce qu'il désire et aime ou ne l'a-t-il pas? Vraisemblablement, il ne l'a pas, dit Agathon. Vois, continua Socrate, si au lieu de vraisemblablement, il ne faut pas dire nécessairement que celui qui désire, désire une chose qui lui manque et ne désire pas ce qui ne lui manque pas. Pour ma part, c'est merveille comme je trouve cela nécessaire, et toi? Moi aussi, dit Agathon, fort bien. Donc, un homme qui est grand ne saurait vouloir être grand, ni un homme qui est fort être fort. C'est impossible. D'après ce que nous sommes convenus. En effet, étant ce qu'il est, il ne saurait avoir besoin de le devenir. C'est vrai. Si, en effet, reprit Socrate, un homme fort voulait être fort, un homme agile être agile, un homme bien portant être bien portant, peut-être pourrait-on croire que les hommes qui sont tels et possèdent ces qualités et autres semblables désirent encore ce qu'ils ont déjà. C'est pour ne pas tomber dans cette illusion que j'insiste. Pour ces gens-là, Agathon, si tu veux y réfléchir, il est nécessaire qu'ils aient au moment présent chacune des qualités qu'ils ont, qu'ils le veuillent ou non. Comment donc pourraient-ils désirer ce qu'ils ont? Et si quelqu'un soutenait qu'étant en bonne santé, il désire être en bonne santé, qu'étant riche, il désire être riche, et qu'il désire les biens mêmes qu'il possède, nous lui répondrions: toi, l'ami qui jouis de la richesse, de la santé, de la force, tu veux jouir de ces biens pour l'avenir aussi, puisque dans le moment présent, que tu le veuilles ou non, tu les possèdes. Vois donc, quand tu prétends désirer ce que tu as, si tu ne veux pas précisément dire « je veux posséder aussi dans l'avenir les biens que je possède maintenant », il en tomberait d'accord, n'est-ce pas? Je le pense comme toi, dit Agathon. Socrate reprit. N'est-ce pas aimer une chose dont on ne dispose pas encore et qu'on n'a pas, que de souhaiter pour l'avenir la continuation de la possession présente? Assurément, dit Agathon. Cet homme, donc, comme tous ceux qui désirent, désire ce qui n'est pas actuel ni présent, ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque. Voilà les objets du désir et de l'amour. Il est vrai, répondit Agathon. Voyons maintenant, reprit Socrate, récapitulons. N'avons-nous pas reconnu d'abord que l'amour est l'amour de certaines choses, ensuite de celles dont il sent le besoin? Si, dit Agathon. Outre cela, rappelle-toi de quoi tu as dit dans ton discours que l'amour est amour. Je vais te le rappeler si tu veux. Si je ne me trompe, tu as dit que l'ordre s'était établi chez les dieux grâce à l'amour du beau, car il n'y a pas d'amour du laid. N'est-ce pas à peu près ce que tu as dit? En effet, dit Agathon. Et avec raison, camarade, reprit Socrate. Et s'il en est ainsi, l'amour n'est-il pas l'amour de la beauté et non de la laideur ? Il en convint. N'avons-nous pas reconnu qu'il aime ce dont il manque et qu'il n'a pas ? Si, dit-il. L'amour manque donc de beauté et n'en possède pas. C'est forcé, dit-il. Mais quoi ? Ce qui manque de beauté et n'en possède en aucune manière, peux-tu prétendre qu'il est beau ? Non, certes. Maintiens-tu, s'il en est ainsi, que l'amour est beau ? Je crains bien, Socrate, répondit Agathon, d'avoir parlé sans savoir ce que je disais. Et pourtant, continua Socrate, tu as fait un discours magnifique, Agathon. Mais réponds-moi encore un peu. Ne penses-tu pas que les bonnes choses sont belles en même temps ? Je le pense. Eh bien, si l'amour manque de beauté, et si la beauté est inséparable de la bonté, il manque aussi de bonté. Je ne saurais te résister, Socrate, dit Agathon. Il faut que je cède à tes raisons. C'est à la vérité, cher Agathon, dit Socrate, que tu ne peux résister. Car à Socrate, ce n'est pas difficile.